Chers amis auditeurs, nous vous invitons à écouter le frère Édouard d'Ivry, dominicain, qui, dans le cadre de la 18e édition de l'Université chrétienne d'été de Castanet, qui avait pour thème cette année « La paix aura ton visage », s'interrogeait pour sa part sur le concept de la guerre juste.
Donc je vous entretiens sur la guerre juste, mais à travers l'angle de la paix chez saint Thomas d'Aquin. Pourquoi ? Parce qu'il y a grosso modo trois conceptions sur les rapports entre la guerre et, je dirais, ce qui s'oppose à la guerre, qui est la paix. Et ces trois conceptions donc, sont très différentes et il convient de remonter à leur origine. Et on les trouve en particulier eh bien, chez les auteurs les plus anciens de l'histoire qui nous est parvenue, les Grecs, et puis le Haut Moyen-Âge qui a commencé à réfléchir sur les rapports paix et guerre. Alors quelles sont ces trois conceptions ? La première, la plus classique, c'est celle de saint Augustin, où il associe la justice et la paix, en disant que la paix est le fruit de la justice. Voilà la conception la plus prégnante qui est encore présente, par exemple, chez notre pape Léon XIV, qui, vous savez, est un Augustin de formation, et qui nous dit dans son encyclique Magnifica Humanitas, au numéro 215, « Tous, à quelque niveau que ce soit, nous pouvons contribuer au fondement de la paix qui est la justice. » Vous voyez ce rapport entre justice et paix très marqué. Et il continue « Nous ne rechercherons pas en effet n'importe quelle paix, une absence de conflit à tout prix, mais cette paix véritable qui naît de la justice. Il existe un lien étroit entre la justice de chacun et la paix de tous. » Il cite saint Jean-Paul II, message pour la 31e journée mondiale de la paix en 1998. Commentant le verset du psaume « Justice et paix s'embrassent » au psaume 85, saint Augustin écrit « Il n'est personne pour ne point désirer la paix, mais tous ne veulent point faire la justice. Mais fais la justice, parce que la justice et la paix s'embrassent et ne sont point en désaccord. À quoi bon être en guerre avec la justice ? La justice te dit « ne vole point » et tu n'entends pas. Ne commets point d'adultère et tu ne veux pas entendre. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux point qu'on te fasse. Ne dis pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te dise. Veux-tu donc arriver à la paix ? Fais les œuvres de la justice. » Donc c'est une magnifique apologie, vous voyez, de ce rapport entre justice et paix. C'est la conception majeure que la plupart ont. Mais vous avez entendu ce que dit le pape Léon XIV. Il évoque la parole de saint Augustin qui dit que la paix n'est pas une absence de conflit à tout prix. Or, pour beaucoup, et du temps de saint Thomas, il y avait cette conception aussi relativement classique de dire la paix est en rivalité avec la guerre, c'est-à-dire la guerre, c'est l'inverse de la paix, une sorte, vous voyez, de dialectique entre guerre et paix. Vous savez, il y a beaucoup d'auteurs qui ont joué sur cette dialectique, Tolstoï ou tant d'autres. Et donc, la paix est définie seulement comme absence de guerre. Vous voyez ? Et du temps de saint Thomas d'Aquin, vous avez un homme de loi, un canoniste, on dirait de nos jours, théologien en même temps, Henri de Gand, dans la Summa Aurea. Il a enseigné entre 1239 et 1253, donc c'est vraiment contemporain, un peu avant saint Thomas, et qui dit que la paix est absence de guerre. Voilà, un point c'est tout, et un général pourrait être facilement d'accord avec cette visibilité, si vous voulez. Il n'y a pas la guerre, donc c'est la paix. Mais ce n'est pas nécessairement la victoire, si vous voulez, comme vous l'a très bien dit le général juste avant moi. Ce n'est pas le fruit d'une victoire. Ça peut être seulement un consensus mou. Voyez. On avait ce matin au texte de l'Évangile les Géraséniens qui sont visités par Jésus. Il y en a deux qui sont possédés. Et Jésus passe par là et on laissait tranquille ces deux personnes possédées. Puis voilà que Jésus survient, il bouscule un peu tout et puis finalement les démons fuient dans les ports, etc. Mais à la fin, les Géraséniens ne sont pas du tout contents de cette perte massive de 200 ports, c'était leur gagne-pain, et ils demandent à Jésus surtout de ne pas rester là. Et on comprend très bien que ces gens ne vivaient que dans un consensus mou. C'est-à-dire qu'ils ne luttaient pas contre le mal, ils lui avaient donné une place, des chemins dans lesquels personne ne passait. Mais quand Jésus arrive, évidemment, ce consensus mou éclate. Et à ce moment-là, on voit les choses plus réellement. Donc, vous voyez, ces deux conceptions sont les deux conceptions massives de les rapports entre... je dirais, la paix et ce qui conduit à la paix, soit l'absence de guerre, soit la justice, mais il existe une troisième conception. Et c'est celle que nous allons essayer de découvrir dans un premier temps, c'est la conception de saint Thomas d'Aquin, qui nous permettra de mieux comprendre après ce qu'est une guerre juste. Qu'est-ce qu'a fait saint Thomas d'Aquin ? Eh bien, saint Thomas d'Aquin est d'abord un lecteur de l'Écriture. Il est théologien, donc la lecture de la Scriptura Sancta, c'est le premier devoir du théologien. Et vous avez effectivement une tension dans l'Écriture, dans ce rapport justice et paix, ou amour et paix. Lisons quelques passages. Nous venons d'entendre le passage cité par le pape Léon XIV, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Mais vous avez aussi la devise de Pie XII, « Opus justitiae pax ». C'était son motu, sa devise de pape. L'œuvre de la justice, c'est la paix. Le fruit de la justice sera la paix. Et l'effet de la justice, repos et sécurité à jamais. On pourrait lire bien d'autres passages, comme le fait aussi de la correction. Toute correction ne paraît pas sur le moment être un sujet de joie, mais de tristesse. Plus tard cependant, elle rapporte à ceux qu'elle a exercés un fruit de paix et de justice. Voyez, donc l'aspect correctif de la justice qui permet de retrouver la paix. Saint Jacques dira « Un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix ». Voilà, l'Écriture donc assemble très fortement paix et justice. Mais il y a d'autres passages qu'il ne faut pas manquer, où l'on voit que le dynamisme pour aboutir à la paix est l'amour. Par exemple, quand Jésus plaide la justice et l'amour, il dira « Malheur à vous, les pharisiens, qui acquittez la dîme de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, qui délaissez la justice et l'amour de Dieu. » Et en continuant donc cette analyse, nous voyons que les commentateurs des évangiles, c'est-à-dire les écrits sacrés qui suivent les quatre évangiles, eh bien, vous avez les lettres de saint Paul ou de saint Pierre ou de Jude qui associent volontiers amour et paix. Par exemple, Romains chapitre 2, « Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. » Ou encore, dans la deuxième épître aux Corinthiens, où l'apôtre nous dit « Ayez même sentiment, vivez en paix, et le Dieu de la charité et de la paix sera avec vous. » Vous voyez, qui associe charité et paix. Et dans l'Épître aux Éphésiens, pareil, que le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent paix aux frères, ainsi que charité et foi. Et dans l'épître à Timothée, deuxième, miséricorde, paix de par Dieu, le Père et le Christ Jésus, ou l'épître de Jude, à vous, miséricorde et paix et charité en abondance. Donc, les auteurs sacrés ont très volontiers associé paix et charité. Donc, pour nous, c'est important, parce qu'on va comprendre comment saint Thomas va arriver à cette définition de la paix à partir de l'amour plutôt qu'à partir de la justice ou l'absence de guerre, qui sont les deux lieux communs, si j'ose dire, acceptés à son époque du haut Moyen-Âge. Donc, quand on lit ces écrits, la première synthèse et le commentaire des sentences de l'évêque de Paris, Pierre Lombard, et c'était obligatoire pour avoir le titre d'enseignant, il fallait commenter les sentences de l'évêque de Paris. On appartenait à l'université à cette époque de cette manière-là. Donc il fallait commenter ce que l'évêque du lieu avait dit. Donc Pierre Lombard, évêque de Paris, et dans ce commentaire donc, des sentences de l'évêque de Paris, eh bien, tout tourne autour de la paix, mais la paix comprise seulement comme non-guerre. Et saint Thomas donc, s'appuie sur un écrit de saint Augustin, La Cité de Dieu, où celui-ci dit « La paix de toutes choses est la tranquillité de l'ordre ». Retenez cette expression, « tranquillitas ordinis », c'est très souvent un moyen pour présenter ce qu'est la paix, la tranquillité de l'ordre. Mais la tranquillité de l'ordre, vous comprenez, ça peut être un ordre qui n'a pas nécessairement, je dirais, toutes les qualités que l'on puisse demander à un ordre, car il y a des ordres qui peuvent être seulement, je dirais, imposés par la force. Et je ne sais pas si vous vous souvenez historiquement, en 1831, il y avait eu ces insurrections démocratiques dans toute l'Europe, et en particulier en Pologne. Et la Pologne avait été durement sanctionnée par le gros voisin russe qui était venu remettre de l'ordre à Varsovie, le tsar. Hein, donc, avait fait une répression extrêmement sanglante à Varsovie pour, juguler cette liberté dont s'étaient appuyés les Polonais. Et donc, le 16 septembre 1831, le général français, ministre de la guerre, Bastien Sébastiani, déclare dans le journal Le Moniteur, « Le gouvernement a communiqué tous les renseignements qui lui étaient parvenus sur les événements de la Pologne. Au moment où l'on écrivait, la tranquillité régnait à Varsovie. » Alors évidemment, la presse d'opposition s'est déchaînée contre cette formule, hein, puisque le tsar Nicolas Ier avait massacré les Polonais. Hein, donc ce n'était pas du tout une bonne chose, mais présenté à travers les mots de ce général Sébastiani, l'ordre et les journaux avaient marqué « Le général est très content, l'ordre règne à Varsovie ». Mais quel ordre, vous comprenez ? Un ordre sanglant. Donc, vous voyez, la tranquillité de l'ordre est une expression redoutable. Tranquillité de l'ordre juste ou tranquillité d'un ordre coercitif. Voyez. Donc, il faut faire attention à cette définition de la paix comme tranquillité de l'ordre. Et saint Thomas, donc, dans les premiers temps, suit, je dirais, d'une manière assez littérale, saint Augustin, c'est le maître. C'est le maître de l'Occident, vous savez, c'est le docteur des docteurs, comme dit Paul VI. Donc la tranquillité exclut le bouleversement causé par un empêchement, et la paix existe quand rien qui trouble l'ordre correct de la cité. La paix, c'est aussi l'inclination qu'elle a par rapport à sa fin, qu'elle désire naturellement, et qui n'est pas empêché. Vous voyez, c'est toujours la paix prise comme fruit du fait qu'elle n'est pas empêchée, que la guerre, dans le fond, est évacuée. La paix, dira même saint Thomas dans ce passage, est aussi nécessaire à la béatitude, mais en tant qu'elle écarte ce qui peut empêcher la béatitude. Donc toujours, voyez, dans un regard d'opposition à ce qui pourrait être conflictuel. Donc une définition de la paix, je dirais, au ras des pâquerettes. Et dans ses commentaires successifs, saint Thomas va petit à petit perfectionner son regard. Là, c'est un regard d'étudiant. Et va petit à petit chercher à mieux comprendre ce que c'est que la paix. Et il va le comprendre à travers la notion de concorde, en voyant que la paix ajoute à la concorde quelque chose de supplémentaire. Car la concorde, c'est seulement, comme l'indique l'étymologie du mot concorde, cum corde, avec le cœur, c'est l'accord de personnes entre elles. Mais la paix, dit saint Thomas, nécessite quelque chose de plus grand qui s'ajoute à cette concorde entre hommes, c'est la paix intérieure. C'est la paix que chacun doit découvrir en lui-même. Et cette paix, il la comprend avec les paroles de Jésus, l'action propre de Dieu est de produire la paix. 1 Corinthiens 14, 33, Dieu n'est pas un Dieu de trouble, mais de paix. Et cette injonction, vivez dans la paix et le Dieu d'amour sera avec vous. La paix, dit saint Thomas, n'est en effet autre chose que l'unité des affections. Or, cette union ne peut être que l'œuvre de Dieu seul, parce que c'est par la charité qui ne procède que de Dieu que les cœurs sont unis. Lui seul peut rassembler et unir, car Dieu est charité, et la charité est le lien de perfection. Aussi est-ce lui qui fait habiter ensemble ceux qui n'ont qu'un cœur. Il cite le psaume 67, verset 7, ou 68 dans nos versions hébraïques. Or l'homme a fait la paix entre Dieu et lui par le mystère de Jésus-Christ. Donc ces commentaires bibliques l'aident petit à petit à sortir, si vous voulez, de la double catégorie, la paix, c'est l'absence de la guerre, ou la paix est le fruit de la justice. Il voit petit à petit, grâce aux commentaires bibliques, apparaître l'intime dynamisme qui aboutit à la paix, qui est l'amour, la charité. Et le moment où il cherche les conditions de la paix, c'est dans son commentaire des noms divins de Denis, le pseudo Aréopagite, qui est un grec, et il dira, il faut trois conditions pour avoir la paix. Premièrement, certes, pour les distinguer les unes des autres, disons qu'il peut exister, il ne peut exister d'ordre qu'entre des choses qui sont différentes. Donc il faut d'abord, quand il y a un risque de conflit, d'abord voir quel est l'ordonnancement des choses. La première des choses, c'est de regarder l'agencement. Comme un militaire, il voit bien qu'il y a un général, il y a des colonels, il y a des lieutenants, etc. Il y a toute une troupe qui suit. Il y a une hiérarchie, si vous voulez. Donc il y a un ordonnancement, il y a un agencement. C'est la première condition pour assembler des choses différentes. Deuxièmement, il est nécessaire à la tranquillité de l'ordre qu'aucune des choses distinctes ne sorte des limites de sa nature, et c'est à cet égard que Denis dit avec pertinence, il fixe les limites. C'est-à-dire qu'il faut des lois. Ce n'est pas parce qu'on a une organisation, un agencement, que nécessairement on est dans la paix. Il peut y avoir une structure de bandits, dans lequel il y a aussi le chef et puis les subalternes, etc., hein, qui sont bien organisés, mais il n'y a pas de limites qui sont définies par des lois bonnes et universelles. Et puis, troisièmement, il est encore nécessaire que cette définition et cette délimitation soient soutenues, et c'est à cela que s'applique ce qu'il dit, et il protège. Il faut une protection pour qu'il y ait un bon agencement et une bonne délimitation qui tienne dans le temps. Car il ne suffit pas d'avoir un bon agencement, un bon ordonnancement des choses, il faut encore que ça tienne dans la durée. Et pour cela, il faut une protection. On retrouve, si vous voulez, grosso modo, ce qui fait un état de droit dans lequel il y a un pouvoir exécutif qui est marqué par une hiérarchie, une délimitation qui est marquée par une légalité des pouvoirs à travers, par exemple, une chambre de députés qui émettent des lois, et puis il faut aussi une inspection judiciaire protectrice de l'ensemble pour éviter les abus et les débordements. Donc on retrouve ça, vous voyez, comme établissement des trois grandes lignes qui permettent la paix. Un bon ordonnancement juste, une délimitation juste et une protection juste. Dans la somme de théologie, donc, saint Thomas va encore s'exprimer de la même manière en ajoutant « la paix inclut donc la concorde et ajoute quelque chose », c'est ce que je disais précédemment. Car effectivement, les volontés de plusieurs personnes s'unissent dans un même consentement, mais il faut aussi l'union des appétits dans la même personne. Il faut que les appétits de vie, qui sont ceux très classiques de la vie, de la survie, de la génération et de la vie rationnelle, soient apaisés dans le sens satisfait. Car sinon, il y a conflit dans les personnes ou entre les personnes. Et la paix consiste en ce qu'en chaque homme, tous les mouvements de l'attrait naturel soient au repos. Et le but de l'homme, saint Thomas le conçoit comme la béatitude, c'est-à-dire la vie contemplative la plus élevée qui permet de faire, je dirais, l'opération la plus élevée qu'il est donné à l'homme de faire, c'est de contempler Dieu et les réalités qu'il nous donne. Donc ces considérations de saint Thomas nous font comprendre que pour la paix, il faut l'unité des volontés, à commencer par la sienne, l'unité des choses voulues entre acteurs et l'unité de ceux qui veulent. Pas seulement que le but soit commun, il faut aussi l'unité de ceux qui veulent ensemble. Et c'est le plus difficile souvent dans une société à obtenir. Saint Thomas voit donc bien l'enjeu, voyez, de ce qu'il appellera la communauté du monde entier, et pas seulement la cité, ou d'abord la famille, puis la cité, puis le royaume, qui est l'État aujourd'hui. Il voit la communauté du monde entier, et il ajoute cette phrase donc très forte, « La paix, retenez bien l'expression, est œuvre de la justice indirectement, en éloignant ce qui l'empêche, mais l'œuvre de la charité la produit directement, puisque, en vertu de sa propre définition, la charité cause la paix. En effet, elle est un amour qui est une force unitive, selon Denis. » Et là, je suis dans la somme de théologie, donc Seconda, Secondé, question 29, article 3, ad tertium. Et là, saint Thomas est au sommet, si vous voulez, de son application à comprendre la paix. Et voyez qu'on n'est plus seulement dans l'absence de guerre, ni non plus dans la paix comme étant fruit de la justice, mais comme fruit de l'amour, hein, la charité. Et nous comprenons bien qu'il y a eu un progrès, si vous voulez, au cours de ces étapes entre le jeune étudiant bachelier des sentences de, commentant les sentences de l'évêque de Paris, jusqu'à cette Seconda Secundae, où il traite de la charité, qui est plutôt vers la fin de sa vie, et où il donne un enseignement, il a 47-48 ans, mais il meurt à 49 ans, il n'a pas eu le temps de faire le tour de toutes les questions, hein, même s'il nous a donné 8 millions de mots, hein, c'est pas mal, hein, en mourant à 49 ans. Et je passe à la deuxième partie, donc comment saint Thomas arrive à la notion de guerre juste. Il faut d'abord reconnaître que saint Thomas ne traite jamais de la guerre pour elle-même, sauf dans cette partie de la Somme, après avoir traité de la paix. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a pas comme premier but de parler de la guerre, mais comme premier but de parler de la paix. C'est accessoirement qu'il parle de la guerre. Et la guerre lui permet de réintroduire la notion de justice de saint Thomas, de saint Augustin. Nous avons vu que pour saint Augustin, le fruit de la justice, c'est la paix. Eh bien, saint Thomas va s'appuyer sur la justice pour faire comprendre que le moyen de retrouver la paix quand on l'a perdue, ça peut être la guerre juste. Voyez, la justice revient par le biais de la guerre, hein, mais pas n'importe quelle guerre, une guerre juste. Et pour cela, saint Thomas va d'abord traiter de ce qu'on appelle un acte à double effet, qui viendra un petit peu plus tard dans la Somme de théologie, mais très probablement qu'il a déjà en tête. Qu'est-ce que c'est qu'un acte à double effet ? Un acte à double effet, c'est un acte dans lequel il y a, une fois qu'on pose l'acte qui cherche à être bon, un effet bon et, hélas, un effet mauvais. Prenons l'exemple, une thérapie. On retire par exemple un cancer, une boule cancéreuse à quelqu'un, et en même temps, on fait une ablation qui est malheureuse pour la personne. C'est le cas de ce qu'on appelle, par exemple, l'avortement thérapeutique. Un cancer à l'utérus, il faut vite soigner, sinon la personne va mourir et peut-être entraîner la mort de l'enfant aussi. Mais en faisant cette intervention chirurgicale, malheureusement, l'enfant saute et meurt par l'occasion de cette opération d'avortement thérapeutique. Donc voilà ce qu'on appelle la règle du double effet. Qu'est-ce qui permet de le faire moralement ? Parce qu'on ne doit pas tuer un enfant, hein, jamais, de la conception à la mort, c'est interdit par la loi divine. Mais pourquoi est-ce que ça peut être permis dans un cas pareil ? Parce qu'on veut sauver une vie, on veut sauver la vie de la maman. Et cet acte à double effet, donc, il faut premièrement que l'acte directement visé doit être bon ou moralement neutre. Retirer une tumeur, c'est clair que c'est un acte bon. Deuxièmement, le bon effet doit légitimement résulter de l'acte bon et non du mauvais effet. C'est-à-dire, il ne faut pas faire en sorte que de mauvais moyens justifient la fin. Troisièmement, le mauvais effet ne doit pas être directement voulu, mais au pire prévu et toléré. On peut toujours espérer qu'au dernier moment, le petit fœtus, on va pouvoir peut-être quand même le sauver. On ne sait jamais s'il est suffisamment développé, la couveuse, etc. Quatrièmement, le bon effet doit être estimé proportionnellement plus fort que le mauvais effet provoqué. C'est la raison de proportionnalité. Et saint Thomas donc développe cette règle du double effet en disant oui, alors à ce moment-là, c'est moralement permis, même si il y a eu des saintes comme en Italie qui ont préféré ne pas faire cette opération avec la règle du double effet qui leur permettait de le faire et qui ont préféré donner la vie à leur bébé et mourir par la même occasion. Vous savez que le pape Jean-Paul II avait béatifié une bienheureuse, je crois que c'était à Turin ou à Bologne, hein, qui est mort dans ces conditions. Le médecin lui disait, mais vous pouvez le faire, c'est moralement juste, hein, que vous ayez cet avortement thérapeutique. Mais elle a dit, non, je préfère donner vie à mon enfant, et elle en est morte. Voyez, hein. Mais c'est l'héroïcité des vertus, c'est pas demandé à tout le monde. Voyez, on passe à un autre degré. Hein. Et du coup, elle a été béatifiée. Hein. Mais en règle ordinaire, la règle du double effet est valable moralement. Voyez. Eh bien, la guerre juste, il faut la comprendre de la même manière, parce que vous avez quoi ? Ben, vous avez une finalité qui est une cause juste et qui est marquée juste en dessous, dont l'objet, c'est le déclenchement de la guerre. Et saint Thomas dit, attention, ce déclenchement de la guerre ne peut pas être réalisé par n'importe qui. Il faut que ce soit l'autorité légitime. Si ce n'est pas l'autorité légitime, à ce moment-là, cette guerre ne sera pas juste, parce que ce sera peut-être une sédition, ce sera peut-être une, quelque chose qui ne sera pas donc conforme à la recta ratio agibilium, la règle droite de l'agir. Et donc, il faut, pour que ce déclenchement de la guerre soit juste, que ce soit l'autorité légitime qui la déclenche à bon escient. Et il ajoute que l'intention soit droite, c'est-à-dire sans passion, telle une politique conquérante cachée. Hein, vous savez que parfois, il y avait des personnes qui partaient en guerre sainte comme à l'époque des croisades, mais avaient par derrière une petite idée par derrière qu'ils allaient se faire quand même un petit fief au soleil, hein, en terre sainte ou dans le royaume d'Édesse ou à Saint-Jean d'Acre ou ailleurs, vous voyez. Et donc les motivations n'étaient pas seulement purement de reconquérir le tombeau du Christ qui avait été violé et qui avait été détruit par Hakim le Fou en 1009 d'une manière terrible pour les croisés, et puis qui avait massacré 3000 pèlerins à la méthode musulmane, halal. Et donc tout cela avait frappé la chrétienté, on avait déclenché les croisades comme action, si vous voulez, de guerre juste pour rétablir la justice dans ces pays, et notamment reconstruire le Saint-Sépulcre détruit, hein, par Hakim le Fou. Donc, toutes ces intentions, je prends un exemple, celui-là, parce que nous le connaissons tous un peu par cœur, et c'est facile de le prendre, on pourrait prendre des guerres modernes. En dernier lieu, vous voyez que là, saint Thomas, dans la question 40, il n'a pas encore traité la question 64, il ne parle pas de la proportionnalité. Dans ce traité sur la guerre juste, qui est inclus dans le traité sur la charité, il ne parle pas de la proportionnalité. C'est après, avec le temps, on peut monter un peu le tableau, peut-être que je le cache, hein, que les choses vont se préciser. La cause juste devra être réparatrice toujours. Il faut que l'autorité légitime la déclenche, cette guerre, de telle manière qu'elle soit ici et maintenant, d'une manière délimitée. On retrouve l'idée de délimitation. Que l'intention ça, soit bien droite, nous l'avons bien expliqué. Et c'est les circonstances donc, qui vont croître avec le temps pour montrer les limites de la guerre juste. En particulier, que la guerre ne soit déclenchée que quand c'est le dernier recours. D'abord, on a essayé toute la diplomatie possible. Ensuite, que le succès soit raisonnable. C'est là qu'apparaît le mot « victoire » de la conférence précédente. Il faut que la victoire soit quand même probable et pas seulement évoquée comme lointainement possible, mais qu'on soit dans une certaine certitude d'obtenir la victoire. Voyez. Donc il faut un succès raisonnable et il faut que les moyens guerriers soient proportionnels. C'est là qu'on retrouve la proportionnalité. Les moyens guerriers soient proportionnels. On ne peut pas utiliser la bombe atomique d'une manière qui serait disproportionnée. Vous comprenez ? Poutine n'utilise pas la bombe atomique sur l'Ukraine. Voyez. Exemple. Voyez. Ce serait disproportionné. Et surtout vis-à-vis de ceux qui l'attaquent, qui ne l'ont pas, hein, cette arme. Donc ils ne peuvent même pas se défendre. Et donc, vous voyez, on va beaucoup accentuer les circonstances. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, pour qu'un acte soit juste, il faut quatre conditions. Il faut que l'intention soit bonne, que l'objet, au sens de objectif, faites attention, ce n'est pas un objet matériel, c'est l'objectif, que l'objet soit bon. Il faut que la finalité soit bonne, parce que la finalité peut être plus loin seulement que l'intention. Elle peut recouvrir des finalités plus longues, un ordre international plus général, hein, l'acquiescement de l'ONU, par exemple, etc. Vous voyez, il peut y avoir plus dans la finalité que dans l'intention. L'intention peut être seulement sur l'acte de guerre, l'objet proprement dit de l'acte de guerre. Et quatrièmement, que les circonstances soient bonnes. Et un acte humain n'est bon que quand les quatre sont bons. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même du mauvais. C'est ben, les morts civiles et tous les dégâts collatéraux. Et c'est là où la proportionnalité, si vous voulez, intervient. Et que... il faut mesurer dans ce calcul de proportionnalité que finalement cette guerre qui est déclenchée puisse réprimer les méchants, secourir les bons. Mais il ne faut pas qu'il y ait une intention mauvaise par derrière. Et saint Thomas insiste beaucoup hein, dans les trois expression qu'il donne sur la guerre juste, hein, qui sont donc énoncées successivement. Hein, je les relis pour que vous les compreniez mieux. Premièrement, l'autorité du prince sur l'ordre de qui on doit faire la guerre. Il n'est pas du ressort d'une personne privée d'engager une guerre, car elle peut faire valoir son droit au tribunal de son supérieur. Parce qu'aussi le fait de convoquer la multitude nécessaire pour la guerre n'appartient pas à une personne privée, puisque le soin des affaires publiques a été confié aux princes, c'est à eux qu'il appartient de veiller au bien public de la cité, du royaume ou de la province soumis à leur autorité. Augustin écrit « L'ordre naturel appliqué à la paix des mortels demande que l'autorité et le conseil pour engager la guerre, appartiennent aux princes. » Quand on dit aux princes, c'est les chefs d'État de nos jours. Il faut bien sûr toujours lire saint Thomas avec des œillères contemporaines hein, et ne pas se laisser prendre par les mots de son époque, hein, qui sont évidemment à situer dans son époque. Deuxièmement, une cause juste. Il est requis que l'on attaque l'ennemi en raison de quelques fautes. C'est pour cela qu'Augustin écrit « On a coutume de définir guerre juste, celle qui punisse des injustes quand il y a lieu, par exemple de châtier un peuple ou une cité qui a négligé de punir un tort commis par les siens ou de restituer ce qui a été enlevé par violence. » Alors, il est clair que cette notion de cause juste a été beaucoup débattue. en sachant que, malgré tout, il y a une propension dans les Écritures, souvent commentées par saint Augustin ou saint Thomas, qui va plutôt contre la guerre. Nous le savons, Jésus le dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Matthieu 26, 52. Et ces auteurs comme Augustin et saint Thomas sont tout à fait conscients de la gravité de déclencher une guerre, en sachant que Dieu, d'une manière universelle, est plutôt celui qui ajoute à la considération contre la guerre et qui est celui qui détruit même la guerre jusqu'aux extrémités de la terre, comme dit le texte de l'Écriture. Donc Dieu, a priori, est contre les guerres. Et quand saint Augustin et saint Thomas utilisent cette expression, il faut bien le comprendre qu'ils sont parfaitement conscients de cette limite, voyez, parce que sinon on pourrait vite leur prêter des intentions qu'ils n'ont pas du tout. C'est vraiment à chaque fois comme la règle du double effet, un cas limite, voyez. Son propos est beaucoup plus de traiter de la charité, la guerre n'étant considérée que comme une sous-question, si vous voulez, en conflit avec la charité, en conflit avec l'amour. Et à partir du moment où il n'y a plus d'amour, malheureusement, il y a la guerre. Donc vous comprenez dans quel sens il le traite. Il ne le traite jamais la guerre pour la guerre. C'est ça, c'est très important à comprendre. Et il n'a pas tout dit. Certainement, le tableau au-dessus manque cette partie-là. Cette partie-là n'est pas développée, à part un passage où saint Thomas évoque la possibilité de préparer la guerre en citant saint Augustin, mais il ne cite pas cette fameuse phrase des Latins très connue dans l'Antiquité, « Si vis pacem, para bellum ». Vous connaissez tous cette formule. « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Saint Thomas ne la commente pas. Par contre, il cite saint Augustin, qui, de fait, a une phrase dans laquelle on nous explique qu'il y a eu dans l'Antiquité des hommes qui ont su préparer leur peuple en leur faisant faire des exercices. Voyez, donc l'aspect militaire, d'avoir une armée de métier, n'est pas du tout exclu dans la considération de saint Augustin ou de saint Thomas, pour la bonne raison que dans l'Évangile, que ce soit saint Jean-Baptiste ou notre Seigneur, ni l'un ni l'autre ne condamne les officiers, centurions ou autres qui s'approchent de lui, mais auxquels on recommande seulement d'être juste. Saint Jean-Baptiste dit « N'abuse pas de ton pouvoir sur le bien des autres, etc. » La proportion est uniquement morale, mais n'interdit pas l'action même du centurion. Et il y a eu quelques courants dans l'Église primitive qui a essayé, comme à l'époque de Tertullien, d'abandonner le service militaire, mais très vite l'Église a statué que non, il fallait s'engager dans le service de la cité, et y compris la défense, l'aspect de la protection, vous voyez, et a toujours été remis en valeur pour exclure le déficit d'une situation qui serait purement pacifique. Un pacifisme, si vous voulez, qui n'aurait pas de fondement au sens le plus fort du terme. Et Nous savons que cette position, l'Église l'a gardée tout du long de son histoire, en nous conservant toujours la notion que le pacifisme, c'est-à-dire la paix pour la paix à tout prix, jusqu'au risque de perdre finalement les chances de la justice et les chances de la vraie paix, eh bien, ce pacifisme a été clairement et régulièrement repoussé, que ce soit récemment par Paul VI ou par Jean-Paul II. Je vous cite cette philosophe juive Simone Veil, qui est morte en 1943, qui, pendant que les pouvoirs fascistes asservissaient l'Europe, disait « Je n'expirai jamais assez l'erreur criminelle du pacifisme dans laquelle elle était tombée au début de sa vie. Hein, » parce qu'elle n'avait pas compris tous les enjeux et elle était très pour la paix de Munich, qui a été une catastrophe. Vous savez, on a courbé les chines devant Hitler et on lui a ouvert la porte à la prise de la Pologne et finalement de l'Europe tout entière, sauf les Anglais. Jean-Paul II, donc, le dit très nettement, si paradoxal que cela paraisse, celui qui veut profondément la paix rejette tout pacifisme qui serait de la lâcheté ou la simple préservation de la tranquillité. Vous voyez, la tranquillité de l'ordre, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être la tranquillité d'un ordre de consensus mou et non pas la tranquillité de l'ordre juste. Et c'est là que se fait la distinction chez saint Augustin entre tranquillitas ordinis, vous voyez, dans la justice, ou un tranquillitas ordinis qui est purement un consensus, donc qui n'apporte pas son fruit. Toujours est-il que il faut bien comprendre que aux yeux de ces auteurs, la guerre n'est pas une bonne chose, c'est un cas extrême, c'est comme la règle du double effet, c'est-à-dire c'est un cas limite. Ce qu'il faut organiser, c'est bien sûr l'amour, la cité de la paix, la cité de l'amour, et surtout ne pas se laisser prendre par, quelque chose qui irait contre la volonté de Dieu qui détruit la guerre jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous donne le passage exact. C'est le psaume 45-46, verset 10, mais il y a d'autres passages. En particulier Judith 9-7, dans lequel la prière de Judith déclare contre ses agresseurs une parole, contre ceux qui n'ont pas reconnu en Dieu le Seigneur briseur de guerre. Voyez, Seigneur briseur de guerre, c'est ça qui est la grandeur de Dieu, voyez, qui brise les guerres. Celui qui disperse les peuples qui aiment la guerre, psaume 67-68, verset 31. À la fin de sa vie, Louis XIV était ébahi par cette parole. Et il a un peu attendu tardivement, mais il en pleurait, parce qu'il avait compris qu'il avait fait de sa vie sans cesse des volontés de faire des guerres. Voyez, et on lui avait prêché à la cour cette parole, et ça l'avait touché. Celui qui met... le Dieu qui disperse les peuples qui aiment la guerre. Et finalement... celui qui met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, psaume 45-46, verset 10. Donc, que ce soit Augustin, que ce soit Thomas d'Aquin, l'un et l'autre sont parfaitement conscients, voyez, de cette opposition de Dieu à la guerre. Donc, il faut bien comprendre que la guerre juste n'est pas du tout une théorie qui serait grossie, mais c'est plutôt un cas limite par rapport à l'objectif qui est la justice pour saint Augustin, et bien mieux encore chez saint Thomas d'Aquin, l'amour, la charité. Je crois que c'est important de le comprendre, parce que sinon, on risque de faire de la guerre juste, voyez, une espèce d'aérolithe indépendant de toute la doctrine sociale, et d'en faire une espèce de théorie pour elle-même, pour justifier des guerres. C'est tout à fait contraire à l'esprit, voyez, de ces grands docteurs, et c'est une énorme bévue de lire des commentateurs qui utilisent Augustin ou saint Thomas d'Aquin pour auto-justifier des guerres contemporaines, dont je ne dirai pas les noms, mais qu'il suffit de penser 2 secondes pour comprendre de qui je vise. Donc, il faut faire bien attention, vous voyez, que cette notion de guerre juste, qui a été bien défendue dans le catéchisme de l'Église catholique, le pape François, comme vous savez, pendant son pontificat, a plusieurs fois parlé d'un côté comme de l'autre, dans des directions assez différentes. Mais pour la guerre juste, tout en disant que de nos jours, c'était difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir des guerres justes à cause des armes terribles que l'humanité a su inventer. Il pensait à la bombe atomique, mais il n'a pas modifié le catéchisme de l'Église catholique sur la guerre juste, alors qu'il a modifié le catéchisme sur la peine de mort. Donc c'est très net que là, il a dit, là, je ne peux pas modifier parce que le catéchisme est quand même très clair. Je peux vous le relire sur ce qu'il dit. Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d'une légitime défense par la force militaire, c'est comme ça qu'on peut la définir. Vous voyez, c'est pas déclencher une guerre seulement parce qu'on aurait été offensé. Du temps de saint Thomas jusqu'à pratiquement le 19e siècle, jusqu'à vraiment la Première Guerre mondiale, on considérait que c'était assez légitime quand on était offensé de déclencher une guerre. Casus belli, on appelait ça un casus belli. Et là, il y a eu quand même un progrès du jus gentium, le droit des gens, qui petit à petit a récusé le fait qu'une simple offense d'honneur puisse déclencher une guerre. Alors qu'on l'a longtemps tenu, vous voyez, les duels, par exemple, n'ont été interdits qu'au XIXe siècle. Ça paraissait assez logique, faute d'honneur, dispute d'honneur, on sortait l'épée et ça paraissait assez normal qu'on organise des duels jusqu'au moment où, vous voyez, le jus gentium s'est petit à petit a progressé et a dit non, il faut traiter ça d'une autre manière que par un conflit armé. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. À l'époque de saint Thomas, ça paraissait assez normal qu'on déclenche une guerre par rapport à un problème d'honneur seulement, voyez. Là, le catéchisme dit bien légitime défense par la force militaire. Il faut que ce soit donc une attaque. Et de fait, dans le passage que je vous ai lu de saint Thomas dans la Seconda Secondae sur la guerre, la guerre juste, eh bien, il parle toujours de défendre. Donc ça prouve bien qu'il est dans l'optique plutôt de la légitime défense, même s'il n'utilise pas ce mot qui n'a pas encore été exprimé à son époque d'une manière aussi parfaite. La gravité d'une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Donc je suis toujours dans le catéchisme, le numéro 2309. Donc 4 conditions sont non données. Que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. Et on pourrait l'ajouter ici. Cause juste, il faut que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. Deuxièmement, que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces. C'est, on le voit là, ici, sur le côté droit. C'est les pourparlers diplomatiques qui n'ont pas pu aboutir. Troisièmement, que soient réunies les conditions sérieuses du succès, et c'est là où le thème de la victoire du précédent donc communicateur, ce général vous en a parlé, il faut quand même avoir en vue une victoire, sinon si on ne veut pas la victoire, on n'a même pas la possibilité de déclencher une guerre juste. Quatrièmement, que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes, ajoutait déjà le catéchisme bien avant le pape François, les moyens modernes de destruction pèsent très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Vous voyez, déjà le catéchisme avait bien montré que de nos jours c'est beaucoup plus difficile à cause des moyens de destruction massive qui sont entre les mains des dirigeants. Et comme le remarquait récemment un général sur une chaîne parlementaire, là, il disait, mais heureusement, Poutine n'a pas encore utilisé ce qu'il a utilisé en Syrie, c'est-à-dire les armes chimiques et autre chose. Donc, il y a quand même des auto-limitations, je dirais, même chez les guerriers les plus redoutables, hein, qui sentent bien qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Hein. Et il y a une auto-limitation, mais le droit international a beaucoup perdu ces dernières décennies en laissant se déclencher beaucoup de lieux de conflit. Vous vous souvenez quand Paul VI était monté à l'ONU en 1964-65, il avait fait ce discours remarquable en commençant la guerre, jamais plus la guerre. Et ça avait touché l'ensemble des pays rassemblés parce qu'on était dans une période exceptionnelle de paix juste après la fin du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Entre 1945 et 1964, il y a eu quelques belles années où il n'y avait pas de conflit. Maintenant, il y en a beaucoup et il y a tous ceux dont on ne parle pas. On parle seulement Ukraine et Iran, mais il y a tous les autres d'Afrique, etc., d'Asie, etc. Et donc tous ces conflits-là sont des conflits armés avec des civils qui sont très souvent dans la mire des conséquences de ces guerres sanglantes. Donc, ça m'a permis de vous resituer un petit peu, vous voyez, le concept de guerre juste, à mon avis, qu'il ne faut pas perdre, mais qu'il faut bien situer pour éviter d'en faire un usage qui ne convient pas à la théologie morale catholique, qui est assez précise, hein, vous voyez, pour qu'un acte soit bon, il faut que l'intention soit bonne, que l'objet soit bon, que la fin soit bonne et que les circonstances soient bonnes. Il faut les quatre. Et c'est très exigeant. Merci de votre attention.